soir, violences sexuelles et atrocités des crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo. Un atelier a été organisé la semaine dernière par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur la nécessité d'une justice transitionnelle en République démocratique du Congo. La présidence de la République, le gouvernement et d'autres acteurs étatiques ont pris part à ces assises. Signalons aussi qu'une coalition de 50 organisations de la société civile congolaise avait demandé il y a quelques semaines au gouvernement d'adopter une stratégie claire pour les personnes soupçonnées d'être pénalement responsables de graves violations de droits humains. Rappelons que la justice transitionnelle est un ensemble de mécanismes mis en œuvre pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, de rendre justice et de permettre la réconciliation. Que penser de la mise en place de cette justice complémentaire en République démocratique du Congo? Où en est-on avec l'éventualité de l'application de la justice transitionnelle dans le pays? C'est le thème de ce soir et pour en parler, nous accueillons Joseph Kassa Mabika, avocat et conseiller au ministère des droits humains du gouvernement central. Maître Joseph Kassa Mabika, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Mais aussi professeur Ngoma Binda, bonsoir.
Bonsoir, il est matin.
C'est Donat Madimba pour ce soir. Vous êtes enseignant à l'université de Kinshasa, ancien deuxième vice-président de la commission Vérité et Réconciliation pendant la transition 1+4 en République démocratique du Congo. Et enfin, Omar Kavota, coordonnateur et directeur exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Omar Kavota devrait nous rejoindre dans ce débat. À tous, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Violences sexuelles et atrocités des crimes commis dans l'est de la RDC. Un atelier a été organisé la semaine dernière par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur la nécessité d'une justice transitionnelle en République démocratique du Congo. La présidence de la République, le gouvernement et d'autres acteurs étatiques ont pris part à ces assises. Signalons aussi qu'une coalition de 50 organisations de la société civile congolaise avait demandé il y a quelques semaines au gouvernement d'adopter une stratégie claire pour des personnes soupçonnées d'être pénalement responsables de graves violations de droits humains. À ce sujet, nous allons écouter Fabrice Puella, ministre des droits humains.
Ce séminaire est très important parce qu'il est important que tous nous parlions de la même voix, ce qui concerne l'implémentation de la justice transitionnelle qui va aider la République démocratique du Congo à mettre un terme au cycle de violence à répétition que le pays a connu et que tout le monde connaît. Il faut conjurer le sort, il faut que les différents acteurs soient conscients de ce qu'amène les conséquences de ces violences, mais aussi à travers les quatre piliers de la justice transitionnelle, conjurer le sort pour que plus jamais ces affres de violence ne puissent se répéter en République démocratique du Congo. Dans quelques jours, il y aura la mise sur pied d'un établissement public dénommé Fonds d'indemnisation des victimes graves ou Fonds de réparation des victimes graves. Ce fonds aidera justement à réparer les crimes les plus crapuleux qui ont été commis presque dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo.
Le ministre des Droits humains, Fabrice Puella, au micro de Kelly Nkoute. Joseph Kassa Mabika, avocat et conseiller au ministère des Droits humains du gouvernement central. Que comprendre en très peu de mots, de façon claire et simple, de cette notion de justice transitionnelle? Quelle est sa vraie différence avec la justice classique ordinaire?
Merci beaucoup, merci pour la parole. Et en fait, la justice transitionnelle est un mécanisme qui est mis en place quand un pays sort ou une société sort d'une grande dictature ou d'un régime répressif. Et on parle ici de crimes de masse. Des crimes de masse où il y a eu de graves violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Contrairement à la justice punitive ou les cours des tribunaux pour les commets des mortels, la justice transitionnelle met les bourreaux et la victime face à face. Ils se disent des vérités dans les soucis que le cycle d'impunité puisse stopper. Alors que la justice punitive se focalise plus sur l'auteur de l'infraction, la justice traditionnelle met plus son accent sur la victime. Parce que la justice punitive est limitée par le seul fait que, à la mort du par exemple de l'auteur de l'infraction, l'action publique est éteinte. Alors que dans la justice transitionnelle, même si l'auteur de l'infraction est puissant, même si l'auteur de l'infraction est encore insaisissable pour le moment, même si l'auteur de l'infraction venait à mourir, la victime aura gain de cause parce que c'est un processus que l'État met en place pour revenir, pour penser aux plaies du passé.
Alors, vous avez en entrée, pour définir cette notion, spécifié que sa nécessité est beaucoup plus accessible dans une grande dictature ou dans un régime répressif. Sans faire de procès d'intention en personne, avez-vous validé que la République démocratique du Congo entre dans ce contexte-là?
Oui, on voudrait d'abord apaiser pratiquement toute la communauté, tous vos auditeurs, que la justice traditionnelle n'est pas une justice de vengeance. La justice traditionnelle vient panser les plaies du passé. Et il y a eu plusieurs tentatives, vous savez, le Congo a connu plus d'une centaine de rébellions depuis son indépendance. D'abord, il y a eu des graves violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires pendant toute la période de la colonisation. Vous savez que nous ne pouvons pas revenir, mais il y a des grands-pères qui ont eu le main coupé par les colons. Nous ne saurons pas revenir à ces atrocités du passé. Mais depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des rébellions. Il y a même des victimes qui sont déjà mortes, qui n'ont même pas connu cette notion de... Ce n'est pas le document de la justice transitionnelle. Il y a eu des ratés, je crois que le professeur Ngomabi est mieux placé. Il y a eu des ratés. On a tenté dans le passé, avec la table ronde, avec la conférence nationale souveraine, avec le 1+4, on a créé une CVR, mais qui n'a pas marché parce que la composition elle-même du bureau de la CVR était composée de comment on appelle, des rebelles, des anciens rebelles, des membres du gouvernement, et donc quelque part cette commission ne pouvait même pas aller loin. Il y a eu des ratés dans le passé, mais aujourd'hui je crois qu'il y a une grande volonté politique du sommet jusqu'au bas de l'échelle, et à partir du chef de l'État, c'est le citoyen numéro un qui prône à ce que aujourd'hui on puisse quand même regarder comme dans un rétroviseur le passé et voir dans quelle mesure on peut guérir ce passé. Parce qu'il est clair, m'a dit, qu'un peuple qui est incapable de regarder son passé, d'élucider son passé, est un peuple qui est capable de répéter ses passés. C'est comme ça qu'il est totalement impérieux, et c'est une grande opportunité que nous avons aujourd'hui, que le président de la République, le gouvernement dans son ensemble, le ministre des droits humains et pratiquement une grande partie de la population, surtout celle qui a été victime des graves violations des droits de l'homme, est pratiquement d'accord à ce qu'on puisse élucider ses passés, qu'on puisse établir les responsabilités et qu'il y ait quand même des commissions vérité et réconciliation dans ces pays pour qu'on puisse tous regarder dans la même voie. Parce que nous avons plusieurs communautés qui sont fracturées, plusieurs communautés qui ne croient même plus à nos services publics, à l'État. Parce que l'État qui était censé protéger les biens et les citoyens, ce même État parfois était tiré de ficelle pour commettre des atrocités dans le passé.
Alors, Joseph Kassamabika, nous avons déjà beaucoup de difficultés. Hein. La RDC a déjà beaucoup de difficultés à faire fonctionner l'ensemble de ces institutions qui sont déjà séculières, qui durent depuis de nombreuses années, a d'énormes difficultés à faire fonctionner la justice classique dans le pays en termes de d'infrastructures et de personnel suffisant, en instaurant ou en cherchant à mettre en place la justice transitionnelle, va-t-on recourir à du personnel supplémentaire? Va-t-on utiliser le même personnel qui est déjà débordé par les tâches de la justice classique? Comment la RDC réussira-t-elle à faire fonctionner une justice, soit-elle complémentaire, transitionnelle, avec les difficultés qu'il y a déjà à faire fonctionner la justice ordinaire, avec aussi les limites infrastructurelles qui sont présentées de manière récurrente.
Merci beaucoup pour la question. Je voudrais aussi préciser pour dire à nos auditeurs que la justice de transition c'est un problème de volonté. La Colombie l'a fait, c'est un pays émergent aussi, il l'a fait, sans pourtant qu'il puisse recourir à des aides même extérieures, par exemple des Nations Unies. Il l'a fait de manière souveraine. Donc c'est vrai que nous sommes débordés par plusieurs questions. C'est vrai que notre justice n'est pas encore vraiment parfaite. Elle est en train de subir certains problèmes. Mais le problème, c'est un problème de volonté politique. Et vous savez que cette justice transitionnelle, nous n'allons pas le faire de manière, en tout cas au niveau national, au niveau du ministère des droits humains, nous avons décentralisé la justice transitionnelle. C'est-à-dire, par exemple, à Kamouna-Sapou, où le ministre était allé voir les populations indiennes et pratiquement remettre les 10 corps qui étaient déterrés et qu'on avait enterrés de manière digne parce que c'était jeté comme des sacs de farine dans une fosse commune. On a pu déterrer le premier corps. Le ministre s'est agenouillé. Il a demandé pardon à la population. On a enterré de manière digne ces corps. Cette province est déjà très avancée avec la justice transitionnelle. Parce que il y a même une loi qui vient d'être votée au niveau du Parlement, créant une commission vérité-réconciliation. Il y a des consultations populaires qui ont été faites en amont, où on a demandé si la population était prête à accepter cette justice transitionnelle. Je sais que mettre ça du coup au niveau national, je crois que vous avez totalement raison que nous avons des petites limites. Il y a des problèmes d'infrastructure, des budgets, mais apparemment, on est en train de travailler. C'est un problème de volonté. Vous savez, quand nous avons la volonté politique, quand la volonté politique est là, il y a possibilité que nous puissions mettre en place ce qui a été prévu. Et nous, au niveau du ministère des droits humains, on a déjà cartographié.
Merci.
Parce que tous les sites où il y a eu des graves violations des droits de l'homme.
Merci.
Et nous sommes en train de pousser pour qu'une CVR ait lieu, voit le jour au niveau du Kassai, parce que là va avoir un effet domino dans d'autres sites où des graves violations des droits de l'homme ont été commises. Et c'est à la population de décider sur les quatre piliers, comment voudront-elles à ce que ces quatre piliers aient lieu. Il y a moyen de lucider la population ou de vos auditeurs sur les quatre piliers, on pourrait bien le faire pour qu'ils comprennent comment cette justice transitionnelle fonctionne.
Merci, Maître Joseph Kassa-Mabika. Nous vous gardons dans cette émission et nous reviendrons sur la clarification des quatre piliers tout à l'heure, et notamment avec l'intervenant qui vient juste après vous. Professeur Ngoma Binda, avec Joseph Kassa-Mabika, vous êtes des hommes experts dans le droit. Lui enlever l'explication qu'il a donnée de la justice transitionnelle, y a-t-il à compléter, selon vous, des éléments qui pourraient alimenter la bonne compréhension de l'opinion, et notamment revenir un moment sur les quatre piliers dont il est question ici, sur lesquels se fonde la justice transitionnelle.
Bon, merci beaucoup, Donna. Il a pratiquement brossé l'ensemble de la question, de la définition de la justice transitionnelle. Je voudrais simplement ajouter que pour insister, qu'il s'agit des violations massives et des droits de l'homme, des crimes odieux, généralement massives et qui concernent non pas des individus isolés, mais des populations entières, des communautés entières qui sont victimes des crimes, victimes des violations graves. Donc, c'est cela, personnel qui est, pour ainsi dire, concerné dans le cadre de la justice transitionnelle.
Alors, dans quel cas et de manière définitive, comment identifie-t-on les quatre piliers de la justice transitionnelle et quel est leur véritable rôle?
Bon, le premier pilier, c'est simplement la nécessité de rechercher la vérité lorsqu'il y a eu des problèmes comme des violations massives. Ben, le fait même de rechercher, d'enquêter pour découvrir ce qui s'est passé effectivement, là, c'est le premier pilier. Un autre pilier, c'est le fait de la recherche de la justice. Cela veut dire que on ne va pas simplement rechercher la vérité pour savoir ce qui s'est passé, pour pouvoir peut-être apaiser certaines âmes qui étaient victimes, mais également si le cas est nécessaire pour poursuivre les criminels. Donc on peut engager également des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes massifs odieux et également le troisième principe, c'est le fait notamment que, comme l'a dit Maître Kassa tout à l'heure là, qu'on pense aux victimes. Généralement, on oublie les victimes. Mais ici, on pense aux victimes, c'est-à-dire on aménage un certain mécanisme de réparation de toutes ces populations qui auront été victimes. Par exemple, des réparations collectives, pas nécessairement individuelles, mais essentiellement collectives, symboliques, etc. Là, ce sont les piliers. Et le dernier, c'est effectivement la réconciliation. Un dernier pilier, c'est qu'on arrive à établir la paix, à établir ou à consolider la paix, et que plus jamais des types tels les atrocités ne puissent se passer encore dans le futur. Et c'est cela que, par ailleurs, on appelle la garantie de non-répétition de ces violations des droits humains, la non-répétition, que cela ne revienne plus jamais.
Alors, enseignant à l'université de Kinshasa, vous êtes aussi ancien deuxième vice-président de la commission Vérité et Réconciliation pendant la transition 1+4 en République démocratique du Congo. Professeur Ngoma Binda, est-ce que la justice transitionnelle n'est pas un peu un régime de saupoudrage pour juste contenter les victimes ou les organisations qui revendiquent justice? Est-ce qu'on n'est pas, la RDC ne risque-t-elle pas là de se mettre dans les difficultés, de se retrouver avec deux régimes ou deux modalités de justice, d'une part la justice classique et d'une autre part une justice qui pourrait peut-être après verdict rendu donner de l'argent ou des compensations à des personnes déclarées victimes, alors que dans d'autres cas, notamment de la justice ordinaire, les gens pourraient juste voir une condamnation de leurs victimes et pas forcément, comme on a l'habitude, des compensations financières.
Bon, il n'y a pas de crainte à pouvoir assister à un dédoublement de ces instances. Je crois que Maître l'a bien précisé. La justice transitionnelle vient comme un complément, essentiellement là où le pays n'a pas pu, en sortant d'une guerre, en sortant d'une dictature, en sortant des moments très troublés, le pays n'a pas pu organiser la justice ordinaire. Et donc là, c'est la justice, c'est ou bien complémentaire ou c'est simplement supplétive. Hein, ça ne vient pas effacer la justice qui est là. Et la justice transitionnelle vient soutenir sous un aspect tout à fait différent, même par exemple au niveau de la réconciliation, du rétablissement de la paix dans la collectivité, dans la communauté. Là, la justice ordinaire ne le fait pas, qu'elle s'adresse essentiellement à des individus isolés. Donc la justice transitionnelle, tout en étant complémentaire, elle vient renforcer en fait la justice ordinaire.
Professeur Ngoma,
elle ne vient pas effacer en fait cette justice ordinaire.
Vous l'avez...
Parce que,
Vous l'avez dit, professeur.
Par exemple, de ce qui se passe avec la Cour pénale internationale. On considère également que c'est une justice supplétive parce que le pays n'aura pas eu la capacité ou le moyen ou le moment propice pour pouvoir connaître des crimes massifs qui auront été commis. Eh bien, la Cour pénale internationale s'est saisie de ça. Donc on peut également considérer que les crimes qui sont connus, qui sont traités par la Cour pénale internationale, ressortissent à la justice transitionnelle. Vous voyez, donc là, on ne va pas effacer les péchés d'un criminel quelconque avec la justice transitionnelle, mais plutôt chercher bel et bien à connaître ce qui s'est passé, à punir s'il le faut, mais également à pouvoir établir la paix, et pour cela il faut le pardon, il faut la réconciliation, il faut absolument que la communauté s'entende, parce que ils sont bien obligés de vivre dans la même communauté, non seulement au présent mais également au futur. Donc il faut établir un climat de confiance mutuelle, et là la justice transitionnelle, qui déjà trouve une forme pratiquement heureuse dans nos sociétés traditionnelles, avec les systèmes d'arbres à palabres, des palabres coutumiers, etc. Mais je crois que cette justice vient renforcer, donc, comme je disais tout à l'heure, la justice ordinaire classique qui existe.
Merci, professeur Ngoma Binda. Nous vous gardons aussi dans ce débat. Omar Kavota, coordonnateur et directeur exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Vous êtes dans une zone, hein, dans le Kivu, où il y a eu des sérieux problèmes de crimes et souvent de problèmes de justice à rendre. Lorsque vous entendez parler de justice transitionnelle, est-ce que ça vous rassure beaucoup plus ou ça vous inquiète un peu?
Non, bien sûr, nous commençons par saluer ces efforts du ministre de droits humains, du ministre national des droits humains. Vous savez que depuis un certain temps, il a entrepris une campagne qu'il a menée et qu'il a même amené ici à l'Est, où nous étions avec lui, aux côtés des autres acteurs judiciaires et des défenseurs des droits humains et de la société civile. Et au cours de cette occasion où il s'assiduait à faire les acteurs judiciaires au renforcement de droits humains, il a abordé très abondamment cette question de justice transitionnelle. Et nous pensons que c'est très important pour des zones comme le nôtre, des zones où on a fait face à de graves violations des droits humains, où on a fait face, et on continue d'ailleurs à faire face, à ces crimes de masse. La justice classique ne saurait jamais apporter la réparation, la réhabilitation à chaque individu victime directe ou indirecte de ces atrocités. Et effectivement, lorsque j'entends parler Maître Joseph Kasamadika et même le professeur, je réalise que nous avons besoin de cette justice transitionnelle qui renvoie au mécanisme de réparation collective. Parce qu'il y a des endroits ici où des villages entiers, tous les habitants ont été affectés d'une manière ou d'une autre de différents crimes, soit des massacres, soit des incendies de villages. Et même si on pouvait s'atteler à cette justice classique, on ne saurait pas amener toutes les victimes à avoir la réparation qu'il faut. Et donc, avec la justice traditionnelle, nous pensons qu'on peut encore amener à restaurer d'abord la vérité, à assurer réparation, même symbolique, pour les victimes, et davantage à renforcer cette réconciliation, cette paix, parce que dans la considération de la situation du pays ici, où par exemple, la plupart des jeunes se sont livrés dans les groupes armés, se sont livrés aux groupes armés, s'ils reviennent, parce que nous allons bientôt commencer un processus DDRC. CF, où les anciens miliciens vont rentrer dans la société. Et si on ne met pas à profit ce mécanisme de justice transitionnelle, mais le bourreau d'hier, comment est-ce que la société va les recevoir? Le bourreau d'hier, ceux qui ont participé au crime, ceux qui ont participé à telle ou telle autre grave violation, cette justice traditionnelle qui ne prévoit pas, qui ne consacre pas l'impunité, nous pensons qu'elle sera mise à contribution pour à la fois renforcer le mécanisme de cohésion, d'harmonie au niveau de la société, et même de pardon pour ceux qui se seraient repentis, par exemple, collectivement.
Maître Omar Kavota, est-ce que maintenant que le gouvernement en parle un peu plus de ce concept de justice transitionnelle, ne pensez-vous pas que lorsqu'on écoute l'explication de cette notion, on a l'impression que, déjà avec la culture africaine, cette forme de justice, en principe, existe déjà depuis longtemps, non? Les formes de réconciliation entre la victime et son bourreau. Et est-ce que, dans les exemples que nous avons dans les Kivu, n'avons-nous pas déjà assisté à des formes de justice transitionnelle? Quelle est la nécessité d'en parler aujourd'hui dans ce cas, si effectivement vous adhérez avec moi que cette justice a plus ou moins déjà existé ou existe déjà dans un certain nombre de cas?
Ce qui est vrai, on peut se dire, suivant nos cultures, suivant nos traditions, il y a certaines formes, il y a certains mécanismes qui entrent dans le mécanisme de justice traditionnelle. Mais la nécessité ici, c'est la formalisation même de ces mécanismes, de ces processus. Parce que ce qui se fait à travers des mécanismes comme l'arbre à palabre, à travers des cadres de dialogue, dans les villages ou dans nos communautés, ne suffit pas à si l'autorité de l'État ne se trouve pas formellement impliquée.
Concrètement, pour que cette justice transitionnelle soit opérationnelle à RDC, l'État devrait faire quoi? Il va prendre quel genre de textes juridiques, quelles sont les structures qui vont se mettre en place et comment est-ce que les populations pourraient réclamer ou exiger que pour leur cas soit plutôt appliquée la justice transitionnelle?
Alors, la RDC ne va pas inventer la roue. La RDC, effectivement, vous venez de soulever une question importante. Je crois qu'il faut arriver à instituer des textes légaux qui essaient de réglementer les différentes formes qui pourront être d'usage. Et dans s'il faut vraiment exprimer un vœu, c'est de voir mettre à contribution les acteurs. Les acteurs, ici, nous pouvons parler des leaders communautaires, nous pouvons parler des acteurs de la société civile, nous pouvons parler des chefs coutumiers, nous pouvons parler de ces leaders politiques ou socio-économiques ou autres, mais l'idée c'est que l'on ne puisse pas, enfin, l'on puisse arriver tout au fin à trouver des formules conciliatrices qui renvoie à des formes de réparation collective, qui renvoie au rétablissement de la vérité, parce qu'une très grande partie de la vérité sur ce qui se passe ici a été attirée ou tronquée. Il faut rétablir, il faut arriver à identifier les auteurs de différents crimes, ceux qui peuvent accepter à passer au pardon public, ils peuvent bénéficier du pardon de la communauté qu'ils ont offensée, et d'autres peuvent être poursuivis en justice parce que les mécanismes de justice traditionnels renvoient aussi à la répression de certains criminels avant de parler des formes de toutes les réparations qui sont pour les victimes directes et indirectes.
Merci Omar Kavota. Joseph Kassamabika, nous allons à présent écouter l'avis des auditeurs. Et pour vous, nous allons échanger autour de ce commentaire de notre auditeur de Bukavu.
Patrice Mudero, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. À mon avis, je dirais que la RDC ne manque pas de moyens pour mettre en application cette justice traditionnelle. Mais il semblerait que notre gouvernement a peur de faire appliquer cette justice, car plusieurs noms cités dans le rapport Mapping appartiendraient actuellement dans les institutions de l'État. Et donc, si cette justice se mettait en place aujourd'hui, le coupable serait déjà connu.
Maître Joseph Kassamabika, avocat et conseiller au ministère des Droits Humains du gouvernement central, votre réaction?
De toutes les façons, je suis d'abord très content du dernier intervenant de la société civile, parce qu'une justice traditionnelle ne peut pas voir le jour sans la contribution massive de la société civile. Donc je crois que l'est du pays est vraiment touché. Nous venons d'être là avec le ministre et nous avons compris qu'ils ont vraiment soif de cette justice traditionnelle. Pour revenir à l'auditeur, effectivement, le Congo a énormément de moyens, c'est vrai. Et le ministre a essayé de travailler pendant les 100 premiers jours. Et je crois que ce vendredi ici, si tout tient, vous verrez, au niveau du Conseil des ministres, je crois deux décrets que le ministre va soumettre à ses pairs, dans le souci de créer rapidement une commission technique qui va s'occuper de la justice traditionnelle comme État, comme un service public, et un fonds d'indemnisation pour les victimes. Et ce fonds va être retenu dans plusieurs entreprises publiques qui pourront verser au moins 1% de leur chiffre d'affaires à ce fonds d'indemnisation dans le souci de mettre en place une commission technique de justice traditionnelle et de voir dans quelle mesure il faut venir en rescousse, en aide à ces victimes qui ont été délaissées depuis de longues années. Certaines sont même mortes. Donc, pour vous dire que la volonté politique est là, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je reviens à dire que le ministère a préféré décentraliser la justice traditionnelle. Vous savez, dans beaucoup de pays, comme en Afrique du Sud, en Colombie, dans beaucoup d'autres pays où cette justice traditionnelle a vu le jour au Maroc, Tunisie, Kenya, Burundi, c'est au niveau national. Mais ça nécessite quand même un budget assez conséquent. Mais au niveau, on est en train de voir comment décentraliser pour ne pas sentir le poids. Mais soyez rassurés qu'avec un peu de volonté politique, cette justice traditionnelle va voir les jours.
Monsieur le conseiller, n'y a-t-il pas un risque qu'avec la justice transitionnelle, soit toutes les affaires soient désormais exigées d'être réglé à l'amiable, parce que la justice transitionnelle a un peu ce côté-là, mais aussi que la justice classique soit négligée au détriment de la justice transitionnelle quand on sait que la justice élève une nation et que l'objectif visé par une nation affaiblie par les crimes, par les conflits, c'est de pouvoir retrouver des institutions fortes, ordinaires et classiques.
Effectivement, je voudrais un peu préciser parce que je crois qu'il y a un minimum de confusion auprès de nos auditeurs. La justice transitionnelle, c'est une justice de transition. C'est pas une justice permanente. C'est une justice qui couvre une certaine période.
Tout à fait, maître. Oui, la question est justement là. Est-ce que cette justice de transition ne risque pas de s'installer éternellement? Puisque les gens vont peut-être plus se retrouver dans cette forme de justice que dans la justice ordinaire, et qu'au bout de compte, 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après, nous ne le souhaitons pas, la justice congolaise qui est faible pour le moment ne soit toujours pas devenue une justice forte avec tous les moyens nécessaires.
C'est là un peu l'avantage de la justice traditionnelle. C'est une justice de transition qui couvre une certaine période. C'est un peu comme on dit, rapport mapping de 93 à 2003. C'est-à-dire, on va définir la période que la justice traditionnelle va couvrir. Si vous élargissez trop la période, elle peut prendre beaucoup plus de temps pour ne plus être efficace.
Alors, officiellement, RDC pourrait commencer quand et elle pourrait se clôturer quand, cette justice transitionnelle?
Ça va être défini par la commission technique pour chacune des commissions vérité et réconciliation. Ça pourra commencer peut-être de 1997 à nos jours. Ça pourra commencer. C'est la commission technique qui va essayer de définir et vous aurez pratiquement les réponses les jours qui viennent.
Merci.
Parce qu'il faut que cette commission technique voit d'abord le jour et elle est composée des experts. En fonction du budget que nous avons, et des expertises que nous avons en place, nous pourrions définir la période que la commission va couvrir. Et il faut que les gens comprennent que la commission, la justice transitionnelle ne vient pas supplanter ou pratiquement remplacer la justice classique. Merci. La justice classique va continuer à faire son travail normalement.
Merci.
Elle va continuer à poursuivre le délit de droit commun. Et vous allez comprendre qu'un viol qui se passe à Kinshasa et un viol qui se passerait à l'est du pays, dans une zone en guerre, ne sont pas pratiquement similaires. Parce que le viol qui se passe au Congo, c'est une infraction de droit commun qui va être poursuivie par les cours des tribunaux de droit commun. Mais le viol qui se passe à l'est devient un crime de guerre, devient une arme de guerre. Et ça peut être défini, et donc la justice sanctionnelle, c'est une justice qui vient poursuivre des crimes graves, des crimes odieux, des crimes qui sont allés au-delà
de l'humanité,
de l'entendement humain.
Merci.
C'est comme ça que, par exemple, le docteur Mukwege que nous avons rencontré et que le ministère est en train de voir dans quelle mesure, au niveau national, il peut porter ce poids de la commission de la justice transitionnelle.
Merci.
Le docteur Mukwege a pu soigner des enfants qui ont été violés alors qu'il n'avait que 8 mois, 6 mois, 12 mois. Voyez-vous, ça, ce sont des crimes extrêmement graves.
Merci.
Qui
vont entrer dans le quota de la justice transitionnelle. Merci, ouais. Joseph Kassamabika, professeur Mbomabinda, enseignant à l'université de Kinshasa, ancien deuxième vice-président de la commission Vérité et Réconciliation pendant la transition 1 plus 4 en République démocratique du Congo. Pour vous, cette réflexion de notre auditeur de Oïcha.
Je suis Jonas Kambale depuis Oïcha au Nord Kivu. La justice traditionnelle telle que définie, sa mise en application sera une mesure salutaire car cela renforcera la lutte contre l'impunité. Ça fait mal aux victimes quand elles voient les personnes soupçonnées d'être responsables d'une exaction circuler librement, soit se constater que les personnes accusées sont pour telle ou telle autre exaction n'ont pas été interpellées. Les victimes sont parfois déprimées et quand une solution pouvant les soulager manque, imaginez la suite.
Professeur Mbomabinda.
Oui, Monsieur Kambale a raison. Ça fait beaucoup de peine pour la personne victime de crime de pouvoir voir l'auteur de ces odieux crimes contre elle, de pouvoir ne pas être en mesure de réagir contre lui ou de le voir être puni, etc. Donc, c'est une opportunité, il l'atteste, il a raison, c'est une opportunité avec la justice transitionnelle d'aller un peu plus loin que les cours et tribunaux habituels. Donc, vraiment, nous devons saluer l'avènement d'une telle institution. Vous avez répété, Donna, que j'ai été à la commission Vérité et Réconciliation en 2003, de 2003 jusqu'à 2006, nous n'avons pas pu réaliser cette attente qui était auprès de la population, parce que c'est vrai, il y a des gens qui avaient même commencé à déposer des dossiers auprès de la commission Vérité et Réconciliation, mais les moyens ainsi que le contexte n'ont pas permis qu'on puisse répondre aux aspirations des gens qui étaient victimes de violations, comme les gens dont parle notre compatriote Kambale. La justice transitionnelle, ici, la commission essentiellement sous la forme de commission Vérité et Réconciliation, ici, comme le conseiller le dit, Maître Kassia, est décentralisée. Je pense qu'elle pourra atteindre le plus grand nombre de gens possible, non seulement au nord, au Kivu, à Ituri, à l'est en général, mais également ailleurs, au Kasaï, par-ci, par-là, à Yumbi, au Congo central où il y a eu des massacres de Bundia Congo, par-ci, par-là. Donc, c'est une manière vraiment très, très réfléchie, très judicieuse de pouvoir organiser cette commission, en décentralisant, en mettant ça et là dans chaque province, ou plus précisément là où il y aurait eu
des massacres ont lieu et des violations graves des droits humains.
Merci.
Donc la décentralisation est une bonne chose.
Merci.
Et Kambalé pourra donner de l'espoir à ses compatriotes qui sont proches de lui, parce que la commission pourra arriver effectivement jusque-là pour pouvoir non seulement, comme lui le souhaite, voir l'auteur des crimes être puni, mais également pour pouvoir obtenir une sorte de réparation
pour la population. Si possible. Merci, professeur Ngoma Binda. Omar Kavota, avocat, coordonnateur et directeur exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Pour vous, nous allons écouter, vous allez réagir à ce commentaire de notre auditeur du Maniema.
C'est David Soumaïl Moussafiri depuis la province du Maniema. La justice transitionnelle est nulle et sans effet en RDC. Espérer trouver les responsables des crimes de violence sous la casquette de cette loi, c'est vouloir transformer un tronc d'arbre en un crocodile dans l'eau. En effet, plusieurs actes de violence n'ont pas été assidûment enquêtés, et sur ceux qui ont été enquêtés, on ne peut redécouvrir aujourd'hui que quelques brumes de traces pour attaquer les coupables. En outre, certains de ceux qui peuvent être soupçonnés d'être responsables des crimes sont élevés au rang des autorités du pays, comme capitaine, major, colonel, chef, et que sais-je encore. Ce qui va sûrement affecter négativement les enquêtes. À mon humble avis, on ne doit pas espérer quelque chose de bon sur la roulette de cette loi. On doit penser autrement. Merci.
Alors, Omar Kavota, vous êtes optimiste par rapport à la justice transitionnelle. Mais que pouvez-vous dire à ce Congolais plutôt pessimiste?
Alors, je comprends l'inquiétude de notre auditeur David Moussafi. Mais je souligne que la justice traditionnelle n'est pas une justice qui consacre l'impunité. Parce que si on s'en tient aux piliers, aux quatre piliers fondamentaux qui constituent cette justice, je pense que on a toujours oublié un pilier fondamental qui est la vérité, la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité, justement, notre co-débatteur, le professeur, l'a rappelé, c'est l'essence même des enquêtes. Avec cette justice traditionnelle, on doit chercher les auteurs de différents crimes. Et cette justice, qui est une justice réparatrice, une justice aussi qui encourage sans sanctionner les auteurs de différents crimes. Je pense qu'il faut encourager que cette justice soit mise en place pour que la vérité soit restituée, le coupable soit poursuivi et que nous ne puissions pas perdre de vie. Et on peut arriver à sanctionner, on peut infliger la forte peine, la forte amende à la victime, mais à l'auteur. Mais il y a une forme aussi qui et sur laquelle on doit insister, c'est la cohésion, c'est cette pardon, c'est cette paix, cette réconciliation qui nécessite aussi que nous puissions vraiment sur laquelle nous devons appuyer pour avoir une société conciliée, une société plutôt où la cohésion règne.
Alors, Omar Kavota, et c'est ça votre mot de la fin, pensez-vous que les consciences et les âmes congolaises, avec toutes les difficultés et les atrocités que ont vécues les communautés, sont aujourd'hui prêtes pour pouvoir vivre une justice où souvent on aura en face de soi et le bourreau et la victime?
Alors, tout dépendra de comment on va faire fonctionner cette justice traditionnelle. Il est important, d'abord, que les animateurs de cette justice traditionnelle soient des personnes dignes. Il ne faudrait pas qu'on amène les bourreaux pour dire que ces bourreaux-là vont faciliter à faire la paix avec les victimes en tant qu'animateurs de cette institution.
Merci.
Donc, il faut doter cette institution de moyens. Ils n'ont pas faire comme l'ancienne institution, commission vérité et réconciliation, qui n'a fonctionné qu'à Kinshasa, alors que les problèmes fondamentaux de vérité, de conciliation étaient à l'est de la République. Et il faut donc faire de cette institution un cadre, effectivement, qui répare les âmes et qui prône la réconciliation et l'unité nationale.
Merci Omar Kavota, à vous, mais aussi à Joseph Kassamadika, tout comme au professeur Ngoma Binda pour la présence dans ce numéro de Dialogue entre Congolais. Jean-Claude Nsiala, Kéline Kouté, Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.